Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Herve Diwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Chloé Guilhem. Bonjour.
Bonjour Yves.
Chloé, tu es ici pour nous parler d'un mémoire que tu as rédigé et qui s'intitule « Les salles de cinéma dans les territoires ruraux, émergence, spécificité et perspective ». Mais avant tout, on peut peut-être te demander de te présenter aussi pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le Pestel, le cinéma Le Pestel.
Oui, tout à fait. Eh bien, déjà, merci de me recevoir. Je travaille depuis fin 2021 au cinéma de Die. C'est le seul cinéma dans les alentours. Et j'ai rejoint l'équipe à la fin du Covid. Et je suis officiellement médiatrice dans ce cinéma. Je m'occupe aussi de la communication et puis de lien avec les scolaires. J'anime certaines soirées. C'est le cas ce soir, d'ailleurs. Jean-Pierre va partir à la retraite, donc mon employeur part bientôt. Et je me suis dit que si je voulais continuer à travailler au Pestel, le mieux, c'était de répondre moi-même, avec mon équipe, au cahier des charges qui sera bientôt publié par la mairie, parce que le Pestel est une délégation de service public. Et donc, je me suis dit, pour faire ça bien, il me faut me former. Et il s'avère qu'à Paris, il y a une école de cinéma qui s'appelle La Fémis, qui forme à plein de métiers très différents, que ce soit des métiers techniques comme le montage ou le son, l'image, etc. Mais il y a aussi une formation qui s'appelle Direction d'établissement cinématographique. C'est une formation qui dure 15 mois et que j'ai suivie du coup entre 2024 et 2025. C'est une formation qui balaye un peu toutes les facettes du métier, si tu veux. Il y a plusieurs blocs de compétences et tout au long de l'année, on a aussi à choisir et à rédiger un mémoire, donc choisir la thématique et la travailler pour rendre un mémoire de fin d'études assez solide, quoi, qui repose autant sur de la littérature que sur des entretiens. Voilà.
Afin de rédiger ce mémoire, il a fallu peut-être opérer un parcours dans divers lieux, structures, pour appréhender un peu ce monde du cinéma, et notamment peut-être sur Die avec le cinéma Le Pestel, qui a une certaine particularité.
Alors justement, figure-toi que Le Pestel est tellement particulier que mes professeurs m'ont interdit de le traiter. Ça veut dire que, évidemment, que moi, c'est ce que je connais, donc ça influence forcément ma perception des choses. Mais ce mémoire ne porte pas sur Le Pestel. C'est vraiment un mémoire dans lequel j'ai dressé un peu l'historique du parc, pour expliquer le maillage territorial qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. On est quand même dans un pays très, très unique, parce qu'on a plus de 2000 salles de cinéma, plus de 2000 établissements cinématographiques, des écrans, il y en a encore plusieurs milliers de plus. Le Pestel fait figure d'exception parce qu'on est dans un territoire qui se remplit plus qu'il ne se vide, chose qui est quand même pas observée partout dans le pays, quoi. Mais, et puis en plus, on a une sociologie qui est très particulière, on a beaucoup d'équipements culturels. Là, l'idée, c'était pas de me concentrer sur Le Pestel, mais d'étudier tous les autres cinémas. Et donc, de me focaliser sur les données du CNC, qui sont les données officielles, et d'en tirer un maximum de conclusions, même si c'est jamais exhaustif. Hein. Il y a plein de limites dans ce travail, j'en suis consciente, mais j'ai travaillé à partir d'entretiens également, à partir de données académiques, mais aussi institutionnelles, et puis toute la littérature universitaire sur le sujet que j'ai recoupée pour aboutir à ces 150 pages de mémoire.
Qu'est-ce qu'un cinéma, donc, type du territoire rural ?
Alors, déjà, il faut définir ce que c'est qu'un territoire rural. Il y a globalement une définition donnée par l'INSEE qui a été revue, enfin en tout cas améliorée au début des années 2020 pour avoir une finesse plus importante sur cette définition. Enfin, bref, on s'est basé notamment sur la définition européenne. Et la conclusion, c'est que le CNC utilise cette définition de l'INSEE et que selon la géographie du cinéma, il y a 251 établissements cinématographiques qui sont localisés dans l'aire urbaine, zone rurale. Voilà. Tous les autres cinémas sont dans des aires urbaines qui sont en fait dépendantes d'un bourg, d'une commune ou d'une métropole. Et il s'avère que Die n'est pas dans la catégorie zone rurale, mais dans l'aire urbaine de Die. Tu vois. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas focalisée sur le Pestel. Et donc si on étudie un peu plus spécifiquement ces 251 salles, et ben on découvre qu'il y a beaucoup de cinémas itinérants, qu'il y a des cinémas ARS et d'autres non, à peu près la moitié, qu'il y a des cinémas qui sont ouverts toute l'année et d'autres qui sont ouverts que ponctuellement selon la saison, selon tout ça. On observe aussi, je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut regarder via les tableaux du CNC, hein, mais il y a des cinémas qui vont avoir un gros travail sur le jeune public, donc ils vont avoir un label jeune public. En tout cas, sur ces 251 salles, ce qui est intéressant, c'est quand on fait la moyenne du nombre d'habitants dans ces communes, on est à 1400 habitants. Donc bon. Ça indique aussi de quel genre de territoire on parle, quoi.
Dans votre mémoire, vous parlez d'émergence. Est-ce qu'il y a une nouvelle contrepartie qui s'opère actuellement, notamment en milieu rural ?
Alors, le mot émergence, il correspond vraiment à la première partie historique, où j'explique, comme je disais, comment, après la naissance du cinéma, cette activité, finalement, s'est diffusée dans tout le pays. Et ça, s'est beaucoup opéré grâce au travail des forains, qui ont emmené avec eux, dans tous les territoires, la technologie du cinématographe, si tu veux. Donc, c'était ça que j'appelais émergence, c'est comment, après 1895, donc les premières séances de cinéma, l'activité de projeter s'est diffusée, quoi. Et pour te répondre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, le nombre de salles de cinéma s'est stabilisé, c'est-à-dire qu'il y en a peu qui ferment et encore moins dans les territoires ruraux. Et donc ça, c'est plutôt un bon signal, quoi. C'est-à-dire que quand un cinéma ferme, c'est parce qu'il est trop vieux et que du coup, il y en a un autre qui ouvre à côté. Enfin, il y a quelques exemples comme ça. Il y a des cinémas qui s'agrandissent, c'est-à-dire qui passent du mono-écran, comme c'est notre cas ici à Die, à deux, voire trois écrans. Et puis, il y a toujours des mobilisations locales qui permettent au cinéma de se maintenir. Et ça, c'est très intéressant. Je me dis, tu vois, si demain, on annonce que le Pestel va fermer, je pense que ça va remuer au niveau local et que collectivement, tu vois, la commune va trouver des solutions pour maintenir ce lieu. Et bien ça, c'est un peu pareil partout. On voit que c'est très impopulaire pour une mairie de voir un équipement culturel fermé. Et donc, il y a toujours des solutions qui vont être cherchées, trouvées pour maintenir ces salles. Et quel était le reste de ta question ?
C'était par rapport à l'émergence, hein, donc, ouais. Notamment avec ce climat actuel. Il y a aussi peut-être un constat d'un public qui a envie d'autre chose que simplement une projection de film. Et ça, c'est peut-être un avantage qu'on peut trouver au Pestel, hein, avec cet accueil, cette convivialité autour d'une séance. Et moi, je me souviens aussi, enfant, il y avait ce court-métrage systématique avant le film, et voir peut-être des animations de spectacles vivants aussi, qui amenaient une certaine fête du cinéma. Et ça, mm-hmm. est-ce que ça, c'est une chose qui tendrait ouais. à revenir?
Ah ben bien sûr, mais là, figure-toi que avant de venir à Erdiwa ce micro, j'étais au Pestel où était en train de se tenir un ciné-goûter. Donc on a projeté un ensemble de courts-métrages à partir de 3 ans. Donc beaucoup de familles sont venues en fait avec des petits et à l'issue de la séance, il y avait un goûter. Donc ça, c'est quelque chose qui a lieu au moins une fois par mois et qu'on pourrait envisager de multiplier parce que ça cartonne, ça marche quand même très très bien. Il y a quelque chose que je dis dans le mémoire qui reprend exactement ce que tu as dit, c'est une séance dite augmentée est bien plus intéressante qu'une séance sèche. Donc, qu'est-ce qu'une séance augmentée ? C'est une séance qui va justement apporter autre chose que juste un film. Donc ça va être soit un repas, soit un ou une invitée, soit une table ronde derrière. Enfin, dès qu'on agrémente, dès qu'on propose quelque chose en plus du film, bah, c'est là que ça fait la différence. C'est comme tu dis, on n'est plus devant chez soi, chez soi devant un écran, je vais y arriver. Mais là, par contre, on est dans une activité collective où on va avoir plaisir à retrouver des amis de la famille. On va pouvoir débattre et parler du film avec des intervenants, poser des questions et puis surtout être ensemble, en fait, tout simplement, dans un lieu chaleureux où on va pouvoir boire un coup. Et puis, être aussi bien dans quelque chose de culturel que de loisir. Et dans une agora aussi un peu, quand on discute des films. Moi, je pense que c'est ça qui fait le succès des salles, encore maintenant. Après, pour te répondre sur les chiffres actuels, c'est vrai que 2024 était une très bonne année. Pour le Pestel, on n'avait jamais vu ça. On a presque atteint les 40 000 entrées. C'était vraiment du jamais vu. Et même au niveau national, c'était une année qui avait été plutôt... bonne, parce qu'il y avait des films dits locomotives qui avaient drainé en fait beaucoup, beaucoup de spectateurs, spectatrices. Et là, cette année, en 2025, on a moins eu ça. Il y a eu moins de films locomotives, il y a eu des sorties qui ont moins bien marché que prévu. Et donc, au niveau national, la fréquentation vraiment est beaucoup plus basse. Et au Pestel, ça va, on s'en sort pas trop mal, mais c'est sûr qu'on fera beaucoup moins d'entrées que l'an dernier, ça c'est évident.
Comme tu l'observais, il y a aussi cette possibilité de débat hein, qui se trouve souvent en fin de projection avec des présences d'acteurs du film. Je me souviens, enfant, les cinémas dits ruraux recevaient des copies longtemps après une sortie nationale. Est-ce que l'avènement du numérique a permis de raccourcir ces délais et d'être quasiment dans l'exclusivité aussi de projection, de sortie ?
Alors clairement, le numérique a bénéficié aux salles rurales parce qu'on a accès maintenant à peu près à tous les films qu'on veut. Par contre, c'est encore les distributeurs qui ont le pouvoir là-dessus, qui ont le dernier mot. Et pour plein de raisons, ils ont plus intérêt à ce que les films sortent en ville d'abord et qu'ils arrivent plus tard dans les lieux plus faiblement habités, on va dire. Et donc, nous, au plus tôt, on a des avant-premières. C'était le cas récemment avec Ma Frère. Ça nous arrive de passer les films avant leur sortie nationale. Ça nous arrive aussi de les avoir en sortie nationale, donc la première semaine d'exploitation. Mais généralement, on a les films en deuxième, troisième ou quatrième semaine après leur sortie. Et c'est souvent pas de notre fait, c'est vraiment les distributeurs. Et là, on va avoir une illustration parfaite avec la sortie d'Avatar. Avatar, c'est distribué par Disney et Disney refuse de donner le film trop tôt aux salles dont les tarifs sont bas, dont la densité de population est faible. Donc tu vois, on va l'avoir, on l'aura pas pendant les vacances, quoi. On l'aura mi-janvier. En VO, en VF, en 2D, en 3D. Mais voilà, ça, c'est des choses, on n'a pas la main. Après, c'est une négociation. On peut l'avoir plus tôt si on le passe plus longtemps. Tu vois, il y a toujours ces données à prendre en compte, mais les distributeurs, ils sont quand même aussi dans des stratégies commerciales qui sont pas les nôtres. Enfin, bon.
Et justement, en conclusion de ce mémoire, il y avait aussi cette image du cinéma rural, souvent caricaturée.
Oui, alors, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. En fait, moi, je ne me suis pas concentrée dans ce mémoire. Je n'ai pas parlé de la représentation des territoires ruraux dans les films. Ça, il y a d'autres personnes qui le font. Et moi, mon mémoire, c'était vraiment sur les salles de cinéma. Par contre, ce que je pense, c'est que dans les politiques publiques, il faudrait, dans l'idéal, que la représentation de ce que c'est qu'un territoire rural et de ce que sont ses habitants, etc., évolue. Parce que là, il y a une concentration quand même des besoins, enfin des moyens, pardon, qui sont concentrés dans les grandes villes, et c'est beaucoup plus difficile de faire du sur-mesure par rapport aux territoires ruraux. Donc c'est en ça que je dis, il serait temps que la vision un peu parisienne sur cette diversité de territoires qui existent en France évolue. Et ça, c'est aussi un concept que j'ai découvert pendant mes recherches, qui est celui d'urban gaze. C'est un terme inspiré du male gaze, que vous connaissez peut-être. Le male gaze qui a commencé à être théorisé dans les années 70 et qui parle du regard masculin sur notamment les corps féminins au cinéma. Et là, cette journaliste l'a utilisé pour urban gaze, donc le regard porté par les urbains sur les populations rurales. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. On retrouve l'urban gaze dans la presse très souvent ou dans certains films. C'est-à-dire que les territoires ruraux sont romantisés ou caricaturés. On montre toujours des agriculteurs, des agricultrices. On va toujours ramener ces territoires à quelque chose d'immuable et de très folklorique parfois. Enfin, c'est vrai, quelque chose de l'ordre du figé qui ne permet pas d'évaluer et de voir toutes les dynamiques et toutes les diversités de ces lieux. Voilà, donc c'est en ça que je conclue aussi un peu ce mémoire, c'est que il y a plein de choses qui se font, en fait. Elles sont moins invisibles, mais énormément d'acteurs et d'actrices dans les territoires ruraux permettent à leur cinéma d'être très dynamique et d'organiser des choses qui sont d'utilité publique, quoi, et qui font vivre réellement des moments, des idées, des films. Et je pense que voilà, ce que je disais aussi, c'est que c'est pas parce que on est loin des villes qu'on n'aspire pas à une vie culturelle importante et riche. Et donc tant mieux si des cinémas peuvent répondre à cette demande, quoi.
Par rapport à cette caricature, il y a aussi, depuis quelques années, voire même quelques décennies, un retour aux sources et de populations urbaines qui viennent s'installer dans les milieux ruraux. Est-ce que c'est aussi ce potentiel de développement et d'émergence du cinéma ?
Alors, ça, c'est aussi quelque chose que je développe dans ma troisième partie. Je parle donc du phénomène des néo-ruraux, donc ces populations qui sont surtout, qui proviennent surtout des villes et qui vont s'installer pour X ou Y raisons, des raisons d'ailleurs souvent familiales ou souvent liées à des attaches ou quoi. Donc les néo-ruraux qui viennent souvent avec un autre bagage culturel, avec d'autres diplômes, qui s'installent. J'ai interrogé des géographes pour leur demander, mais est-ce que depuis le Covid, vous pensez qu'il y a une nouvelle vague des néo-ruraux dans les campagnes ? Et ce qu'on m'a répondu, c'est que c'est trop tôt pour le dire et que pour l'instant, on n'a pas de recul suffisant, pas d'études universitaires qui prouveraient ça. Mais par contre, quand j'en ai parlé avec des exploitants et exploitantes de salles de cinéma, le discours était tout autre. On m'a dit qu'en Ardèche, par exemple, des personnes étaient restées dans leur résidence secondaire, n'étaient pas rentrées dans les villes, et que du coup, ça alimentait leur public, en fait, dans les salles. On voit aussi que y a un mouvement peut-être un peu de fond, même chez les personnes diplômées, de quitter la ville, qui peut être vu comme cher, liberticide, et puis finalement très pollué également. Donc peut-être qu'il y a un changement d'imaginaire là-dessus qui est en train de s'opérer. C'est qu'avant, on rêvait de la ville et maintenant, peut-être qu'on rêve un peu plus des grands espaces. Après, c'est toujours difficile de parler de ce « on » parce qu'on ne sait pas trop qui c'est. Mais en tout cas, c'est des choses à questionner. Et puis finalement, c'est aussi un peu mon cas. Moi, je n'ai pas grandi à Die, je n'ai pas grandi dans un territoire isolé ou rural. Je viens plutôt de la ville, mais par contre... je trouve que ce qu'on vit ici est vraiment fabuleux. Ce cinéma est vraiment extraordinaire. On a un public génial et j'ai envie de rester au moins quelques années. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, on ne sait pas encore à quel point le phénomène de départ à la campagne se vérifie ou pas. Mais en tout cas, que ce soit du côté du public ou du côté des exploitants et exploitantes de salles de cinéma, ça aura un impact et ça l'a peut-être déjà un petit peu.
Il y a aussi un point, les perspectives. Donc, quelles sont-elles pour ces cinémas ?
Alors ça, c'est surtout ce que je développe dans ma troisième partie que j'ai trouvé passionnant. C'est, voilà, une fois qu'on a parlé de toutes les contraintes d'ordre économique, de la fragilité quand même de ces établissements, une fois qu'on a parlé aussi de tout ce qui a à voir avec les dysfonctionnements et les spécificités de ces salles, eh ben, on peut creuser des initiatives qui sont vraiment hyper enthousiasmantes. Je pense notamment à cette petite commune. Dans la Nièvre, il y a une initiative donc à Auroux en Morvan que j'ai trouvé vraiment assez incroyable. Si tu veux, c'était un grand bâtiment de la Poste qui était sur le point de fermer. Et en fait, Ornou en Morvan accueillait depuis longtemps un festival de cinéma. Et le maire était très impliqué dans ce festival. Et quand il a vu que la Poste était sur le point de fermer, il a réfléchi à mutualiser les lieux et à en faire un pôle plutôt pluridisciplinaire. Et ils ont réussi à travailler avec le département, la Poste, la commune et l'association qui accueillait le festival de cinéma pour faire de ce bâtiment un cinéma qui accueille un bureau de poste et une médiathèque. Et ça, je trouve que c'est ultra inspirant parce que, en fait, c'est comment, face à la fermeture de plein de services publics, ben, en fait, on peut mutualiser des lieux pour les ancrer et pour les faire vivre, même dans des petites communes, quoi. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on va voir se multiplier à l'avenir, j'en sais rien. Moi, j'espère plutôt que les services publics vont arrêter de fermer. Mais bref, en tout cas, c'est quelque chose qui donne de l'espoir aussi. J'ai aussi creusé l'exemple de Jindou Cinéma. Jindou, c'est une toute petite commune de peut-être 200 ou 300 habitants dans les environs de Toulouse, donc dans le sud-ouest. Et depuis très longtemps, il y a un festival à Jindou, depuis les années 80. Et en fait, face au succès de ce festival, il y a eu une volonté politique de créer un grand bâtiment qui puisse accueillir à la fois les séances de cinéma pendant le festival, mais qui puisse aussi être à l'année un lieu de résidence de création et un lieu de projection quelques fois par mois. Et je trouve que ça, pareil, ça fait partie des choses assez extraordinaires qui peuvent se passer en dehors des grandes villes, quoi. Et ça crée de l'emploi et ça dynamise beaucoup la commune pendant l'été, pendant le festival, mais aussi le reste de l'année. Il y a un cinéma pas très loin, enfin plus proche de nous, qui est celui de Cucuron, dans le Vaucluse, et qui est pareil, enfin de la même manière, vraiment unique, parce que eux, ils sont devenus espace de vie sociale, comme RDY, il me semble. Et donc, ils ont développé toute une activité collective, en fait, autour du cinéma. Et ils ont aussi développé un cinéma itinérant autour du cinéma du mono-écran fixe. Et ils font un travail formidable auprès des publics. Et voilà, je trouve que ces trois exemples sont particulièrement inspirants. On peut penser à Lussas également, en Ardèche, qui est un tout petit village, mais qui est très, très dynamique sur la thématique du festival et des formations. Des perspectives, il y en a plein. Il y a des initiatives très inspirantes qui donnent de l'espoir et qui permettent de voir aussi ce qui marche, quoi, des astuces, des bonnes pratiques, des choses qu'on peut répliquer ici à Die et qui vont en fait alimenter nos réflexions en tant que professionnels sur comment mieux faire, quoi.
Il y a cet aspect de l'investissement aussi, hein. Avec ses projecteurs, cette sonorisation, le lieu même, son mobilier. C'est un frein au développement, ne serait-ce que dans certains villages. Vous parliez de ce village de 300 habitants. Ça a dû être une grande volonté politique, en tout cas, de le mettre en place, ce cinéma.
Tout à fait. Bah alors, il y a quelque chose qui est assez formidable aussi dans cette filière de l'exploitation cinématographique française, c'est que c'est très structuré, très bien pensé. Il y a une expression que j'aime bien, c'est qu'on organise le ruissellement dans le cinéma. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que vous venez au cinéma, vous contribuez à la production de films, mais aussi à l'entretien et à la rénovation du bâtiment. C'est-à-dire que sur un ticket à 10 euros, quand vous allez au cinéma, bon, on n'a pas de ticket à 10 euros au Pestel, mais c'est plus simple, il va y avoir la TVA qui va partir, il va y avoir 10% aussi de taxes sur l'audiovisuel, et puis après, c'est 50-50, donc 4 euros pour le distributeur et 4 euros pour l'exploitant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'argent collecté par la TSA ? Eh bien, la TSA, elle va permettre à la production de continuer, parce que c'est de l'argent qui permet derrière au CNC de produire les films, et moderniser et de rénover les salles de cinéma. Par exemple, là, c'est avec l'argent de notre TSA qu'on a pu changer les tentures du Pestel. C'est avec la TSA également qu'on s'occupe de changement de fauteuil, par exemple, ou du changement de projecteur. Évidemment, il y a un reste à charge. Et puis là, nous, le Pestel, les murs appartiennent à la mairie, donc c'est quand même la mairie qui est très motrice. Et on voit d'ailleurs que plus on est dans des territoires isolés et ruraux, plus le mode de gestion des cinémas est collectif, dans le sens où c'est pas des investisseurs privés qui vont prendre à charge la construction des salles, etc. C'est plus de l'autogestion au niveau local, où les murs vont appartenir à une mairie, souvent, ou à une intercommunalité. Et derrière, il va y avoir soit une délégation de service public, comme c'est le cas au Pestel, soit une convention d'occupation avec une association. Et il y a un troisième modèle qui est celui de la régie publique. Donc voilà, on voit que plus on s'éloigne des grandes villes, plus ces trois modèles sont fréquents. Et donc, les investissements, ils sont toujours partagés. Il y a aussi des sous à aller chercher parfois au niveau européen, au niveau de la région. On a donc quand même beaucoup d'interlocuteurs au CNC qui aident en fait à l'entretien et à la rénovation des salles. Donc tout ne repose pas sur la mairie, tout ne repose pas sur l'entreprise de Jean-Pierre, mais c'est un peu un travail collectif qui va nous permettre d'avoir une salle accueillante pour notre public et des conditions techniques idéales, quoi, qui nous permettent de projeter dans des très bonnes conditions d'image et de son.
À l'image de ce qui se fait en France dans cette structure du cinéma, est-ce qu'il y a des nettes différences sur d'autres pays européens ?
Alors ça, on en a un petit peu parlé à la FEMIS, mais pas non plus énormément. Ce que je peux te dire, c'est que le nombre de salles par habitant en France est énorme par rapport à nos voisins européens. On a vraiment un parc et un maillage territorial très, 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 très important. Et ça, c'est complètement unique. On a... peut-être l'un des plus grands cinémas du monde. On parle du cinéma UGC Les Halles à Paris, qui a 27 salles de cinéma.
Oui, je me souviens y être allé. Il y a des salles très minuscules, d'ailleurs, un écran qui ne ferait pas l'air un home cinéma qu'on peut avoir chez soi. Hein.
On est d'accord. C'est étonnant que ce soit le même prix, d'ailleurs. Oui. Leur très, très grande salle où il doit y avoir 500, 600 places et leur petite salle de même pas une vingtaine de fauteuils. Mais bon, dans tous les cas, il me semble que il y a juste en Corée du Sud où ils doivent avoir des cinémas aussi grands en termes de salles. Mais sinon, c'est assez unique. Et pour te répondre, on nous a pas mal parlé de certaines salles en Belgique et de d'autres salles en Angleterre. Parce qu'ils sont déjà vachement dans la diversité des activités dans le même lieu. Par exemple, en Angleterre, souvent les cinémas sont très associés aux bars-restauration, bien plus qu'en France en proportion, si tu veux. Dès que tu vas au cinéma en Angleterre, bah, tu sais que tu peux boire ta bière dans la salle, que tu as un repas avant-après, que tu peux manger aussi devant ton film si tu veux. C'est quelque chose de beaucoup plus courant. En France, on n'en est pas là, clairement. Il y a beaucoup de cinémas qui sont très différents du Pestel, qui n'ont pas de bar, qui n'ont pas du tout d'espace de hall ni d'espace de restauration. Et ça, c'est quelque chose qui est plus pensé apparemment à l'international. Après, je sais que l'Espagne et l'Italie ont perdu énormément de salles de cinéma. Il y a quand même des grandes différences dans la manière dont leur filière est structurée. Et il y a un super livre que je recommande vivement à toutes les personnes qui sont un peu intéressées par la thématique. Ça s'appelle Cinema Maker et ça a été écrit par Agnès Salson. En fait, c'est un tour d'Europe des salles de cinéma avec donc des photos et des entretiens avec les exploitants. Et c'est absolument génial parce qu'on découvre des architectures vraiment hors du commun, vraiment incroyable. On rentre justement dans la diversité des salles qu'il existe en Europe et dans la diversité, enfin dans la beauté des bâtiments, dans l'architecture, mais aussi dans des lignes éditoriales qui sont très, parfois très fortes, quoi. Donc dans des risques qui sont pris, éditoriaux, etc. Et donc si ce livre vous rend curieux, curieuse, je l'ai amené au Pestel. Vous pouvez nous l'emprunter si vous le souhaitez. Et ça fait vraiment pour moi partie des bibles, quoi, des livres de chevet qui inspirent en fait mon travail et notre travail à venir ces prochaines années.
Une question me venait aussi, c'est par rapport au choix des propositions de projection des films. Il répond à quelle demande en fonction, est-ce qu'il y a une différence de proposition entre des cinémas de ville et ceux du monde rural?
Alors ça c'est un vaste sujet également. Déjà, ce qu'il faut savoir, et c'est une réalité très, très simple à observer, c'est que, comme je disais tout à l'heure, les cinémas ruraux sont majoritairement des mono-écrans et des circuits itinérants. Ce qui fait que forcément l'offre est moindre. C'est-à-dire que nous, au Pestel, on a 4, 5, 6 films par semaine, grand max. Alors que bah, forcément, quand tu as 10 salles, tu peux en sortir 10 fois plus. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Après, le deuxième point, bah, comme je te disais, les distributeurs te donnent les films en retard. Surtout, tu dois faire avec certaines données sociologiques et des obligations politiques. Par exemple, nous, au Pestel, on est une délégation de service public. Ça veut dire qu'on a un cahier des charges qu'on doit respecter, parce que c'est dans le deal avec la mairie. La mairie nous impose d'être classée ARS, de faire un travail avec les scolaires, d'accueillir aussi les associations locales, etc. Et donc ça oriente forcément notre programmation.
Surtout, il y a une indépendance du choix de programmation. Il y a eu une polémique là, cette semaine concernant une mairie qui obligeait un directeur de salle de projeter un film qu'il ne voulait pas. Donc, est-ce qu'il a aussi une résurgence peut-être aussi et puis ces menaces émanant du Rassemblement National sur le CNC. Enfin, il y a une main qui s'opère en ce moment sur le monde du cinéma. Est-ce qu'il y a une inquiétude ?
Eh bien, justement, c'est intéressant parce que ça montre une fois de plus à quel point le cinéma est politique et à quel point il peut être instrumentalisé aussi. Et c'est ce qu'on a vu avec donc c'est le film en question, c'est Sacré-Cœur, qui est distribué par une entreprise avec laquelle on ne travaille même pas, Adi, parce qu'elle est spécialisée dans ces films-là de prosélytisme, en fait. Ouais, oui.
De bondieuserie.
Tout à fait, très, très, très catholique, fervent, et puis voilà, prosélyte. Donc nous, on se refuse à passer ces films. Il y a des textes qui protègent normalement la liberté de programmation. Donc c'est vraiment un énorme scandale ce qui s'est passé dans cette commune de région parisienne. Je ne sais plus laquelle, donc je ne vais pas préciser le nom. Mais cette personne a mis le doigt sur un des dangers qui nous guettent en tant que programmateurs de lieux culturels, hein, parce qu'on parle de cinéma, mais les théâtres, c'est pareil. Enfin, y a quelque chose qui fait peur et qui restreint vachement les choix de ligne éditoriale. Moi, c'est pareil, au moment où j'ai travaillé sur mon mémoire, j'étais tombée sur un article de Télérama qui parlait de ces programmateurs et programmatrices de théâtre dans les territoires ruraux qui se s'auto-censuraient parce qu'ils savaient que tel ou tel spectacle, dans leur commune, c'était niet, que ça passerait jamais et qu'ils n'auraient pas l'aval de leurs élus. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai cherché à savoir aussi quand il y a des cinémas dans des communes gérées, enfin, dont les maires sont Rassemblement National. Et on m'a répondu que parfois, ils venaient intimider des intervenants. C'est arrivé dans une commune du Nord. Alors, laquelle ? Bon. Bref. C'est déjà arrivé dans une commune que des élus viennent et intimident, en fait, les invités suite à certains films. Là, en l'occurrence, l'exemple qu'on m'avait donné, c'était « Comment saboter un pipeline ». Il y avait une intervenante qui venait parler du film, parler de cinéma, quoi, pas tant du sujet. Mais des élus ont peur que ce soit un rassemblement de vilains écolos. Et donc, ils sont venus pour montrer un peu les gros bras. Après, ce qu'on m'a répondu aussi, c'est que c'est pas l'apanage du RN. Il y a aussi beaucoup d'autres mairies. Et ben là, c'était le cas en région parisienne. Hein. C'est pas une mairie RN qui a voulu imposer Sacré-Cœur. C'était juste des gens droite. Et en fait, on voit bien que c'est une bataille culturelle aussi qui est en train de s'opérer, que toute la bolosphère est en ordre de marche, quoi, et qu'il va falloir être très très prudent ces prochaines années à la liberté de créer, mais aussi à la liberté de programmer. Et moi, ça m'inquiète énormément, et je pense que la profession est très très attentive à tout ça. Je vais participer dans 2 semaines à un festival où il va y avoir pas mal de tables rondes. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui vont porter là-dessus. C'est pour vous dire l'actualité du sujet, quoi. C'est que l'indépendance et les, voilà, la manière de censurer finalement certaines programmations est malheureusement à l'ordre du jour et qu'il va falloir s'organiser pour lutter contre ça. Ouais.
Autour de ce cinéma ou de ces cinémas, parfois des associations sont... auprès de ces salles, par peut-être des propositions de choix, de projections de films, et peut-être aussi de maintenir ce lieu culturel d'agora aussi.
Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai noté, c'est que plus on est dans des communes petites, plus le secteur associatif est en charge de l'animation des cinémas. Et donc... c'est évidemment une autre logistique parce que c'est difficile de travailler uniquement entre bénévoles. C'est des activités qui sont très prenantes. En plus, comme l'âge de départ à la retraite est sans cesse repoussé, est-ce qu'on va encore avoir assez de bénévoles pour maintenir ces salles ? Et puis, il y a toute la thématique des ressources humaines. C'est difficile de travailler qu'entre bénévoles. Qui fait quoi ? Qui prend les décisions ? Qui est responsable, en fait, au bout du compte du lieu ? Ça, c'est un sujet. Mais après, on le voit ici, on a un tissu associatif très dense. On est très sollicités. Et je pense que ça explique aussi la richesse de notre programmation et de nos propositions, quoi.
Ce mémoire rédigé, le résultat d'un travail, peut-être même d'une obligation hein, pour ce choix professionnel à venir, est-ce qu'il est malgré tout aussi un outil pour beaucoup et est-ce qu'il est accessible ?
Alors oui, il est accessible facilement. Je vais d'ailleurs le mettre en ligne sur le site du PESTEL, je pense. En fait, j'en avais besoin effectivement pour valider mon diplôme. C'est un travail qui devait être rendu pour valider ma formation. Mais ça nourrit forcément ma pratique professionnelle. Et oui, je sais qu'il a déjà été présenté dans certains événements professionnels. Je pense que beaucoup de personnes œuvrent à la vie culturelle et n'ont pas de reconnaissance ni de visibilité. Et ce travail, c'est aussi un peu leur rendre hommage. Et je pense que, clairement, il y a une méconnaissance qui est aussi liée à l'organisation de notre pays, qui est très centralisée, alors que sur tout le territoire, il y a des acteurs et des actrices culturelles qui font un travail formidable. Mais il circule, ouais, ce travail circule.
Tu disais que c'était un outil.
Oui, c'est un outil. Il a été présenté à certains conseils d'administration d'associations nationales. Je sais que voilà, il y a des personnes qui s'y sont intéressées parce que elles imaginent mal les réalités qu'on vit, nous, ici. Elles imaginent mal la thématique du transport, tout simplement, la thématique aussi des subventions, à quel point elles sont précaires. Elle a l'importance aussi du soutien politique, du coup, qu'il y a derrière. On dit souvent avec Jean-Pierre qu'il suffit qu'on ait un partenaire public qui nous lâche pour que notre projet ne puisse plus se maintenir. Nous, on a des sous de la commune, mais aussi de la région et du CNC. S'il y a une de ces trois ressources qui vient à manquer, on devrait totalement se réorganiser, quoi. Et donc, voilà, c'est des réalités auxquelles ne sont pas confrontés les grands multiplexes ou même les grands cinémas privés de ville.
C'est plus une industrie à ce niveau-là, hein, de toute manière.
Ah, c'est une industrie. Oui, le cinéma est une industrie, mais ce qui est intéressant, c'est comme je disais tout à l'heure, on organise le ruissellement, c'est-à-dire que les gros films permettent le financement des petits. Et ça, c'est vraiment hyper important dans notre système, c'est qu'à la fois, on permet à des artistes, des cinéastes d'émerger, et on permet le financement de tout petits films grâce à l'exploitation des très grands. Et ça, je sais que c'est aussi attaqué par les États-Unis de Trump actuellement. C'est que beaucoup de pays ne comprennent pas la structuration un peu de notre filière, qui est, de mon point de vue, absolument géniale, mais qui est très fragile, une fois de plus. Oui, tu l'évoquais tout à l'heure, le CNC est attaqué par le Rassemblement National. On sait aussi qu'il y a des régions qui ont diminué les subventions à la culture drastiquement. Je crois que c'est le pays de la Loire.
Pays de Loire, oui.
Ouais. Département de l'Hérault aussi. On voit que, de toute façon, il y a un contexte politique extrêmement conservateur et rétrograde, quoi, enfin, qui se développe. Et donc, c'est forcément en ligne de mire les lieux de culture et de démocratie.
Je voulais savoir, à tes yeux, quelle musique pourrait représenter le cinéma ?
Ouais, je pensais à Hans Zimmer. J'aime beaucoup son travail. Lui, c'est pour moi un grand compositeur qui a été sur des films énormes, aussi bien Dune, Interstellar, et à la fois donc des choses très 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 cinématographiques, quoi, très énormes. Enfin, et il a eu plein de nominations parce que il est trop fort.
Hans Zimmer, pour terminer cette émission avec un film. En particulier
Interstellar.
Interstellar, allez. Chloé Guilhem, merci beaucoup d'être venue sur Air du Voix pour nous parler donc de ces mémoires concernant les salles de cinéma dans les territoires ruraux, émergence, spécificités et perspectives que l'on pourra bientôt trouver sur le site internet du cinéma Le Pestel. Et en tout cas, je remercie beaucoup ce passage et souhaitons une bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.